Tam Israël, des infos, de la culture, un invité, une émission proposée par Thierry Rose, Dan Leclerc et Alain Lévy. Prenez une chaise et écoutez-moi.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour Alain Lévy, bonjour Dan Leclerc. Une émission particulièrement grave aujourd'hui au vu de la situation en Israël et on peut dire dans le monde et en France.
C'est au quotidien que nous suivons l'actualité comme toutes et tous et nous avons un invité bien particulier et spécial aujourd'hui, Thierry.
Un invité, oui, qui est connu des Strasbourgeois pour y être venu en 2021 en tant qu'ambassadeur d'Israël en France où il est venu, faire un petit vraiment le buzz, mais c'était un buzz très utile contre ce livreur d'une compagnie de livraison à domicile qui s'est manifesté auprès d'un restaurateur juif en disant « je ne livre pas les juifs ». Ce livreur a d'ailleurs été condamné, expulsé immédiatement et je crois que c'est beaucoup grâce à lui, Daniel Saada d'Israël. Je veux aussi rappeler à ce propos qu'il est fortement déconseillé en ce moment de prendre certaines compagnies de VTC, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle.
Livraison à domicile, oui.
Et de livraison à domicile. Ne laissez personne rentrer chez vous que vous ne connaissez pas. On a vu pas plus tard qu'hier ce que ça peut donner.
Absolument.
Je crois que nous avons Daniel Saada en ligne. La régie me fait signe que oui. Donc, place à l'interview. Daniel Saada, bonjour. Vous êtes l'invité du jour de l'émission Stam Israël avec Thierry Rose, Dan Leclerc et Alain Lévy. Vous êtes,
bonjour.
Vous êtes l'ancien. Vous avez joué le rôle d'ambassadeur. Vous étiez ambassadeur d'Israël à Paris en 2021 et à Strasbourg. Nous avons gardé un souvenir de vous très fort puisque vous êtes immédiatement venu lorsqu'un livreur. On ne va pas dire le nom de la compagnie, lorsqu'un livreur à domicile a déclaré ne pas vouloir livrer chez les Juifs.
Daniel, oui, je m'en souviens très bien.
Merci de votre soutien, en tout cas à la communauté de Strasbourg qui a toujours été très fort. Mais aujourd'hui, la situation fait qu'on a besoin de vous, nous, encore une fois, d'abord pour nous informer et ensuite pour nous donner un petit peu d'espoir. Donc Daniel, quelle est la situation aujourd'hui en Israël?
Écoutez, l'espoir, nous l'avons, nous le gardons et nous ne le perdons pas. Et ce n'est pas une simple formule. Je crois que de voir, évidemment, nous avons reçu un coup extrêmement douloureux. Toutes ces vies humaines qui ont été perdues, dans les conditions les plus terribles, les plus abominables que l'être humain ne peut même pas imaginer, ne peut même pas penser. Il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais de notre côté, et je vous explique pourquoi nous ne perdons pas l'espoir. De l'autre côté, nous voyons que notre pays n'a pas changé. Notre société, notre peuple, notre nation est unie pour se défendre et pour essayer de porter le coup le plus fatal possible à ces misérables terroristes qui nous ont porté ce coup et qui essayent et qui continuent d'essayer de nous nuire. Nous sommes une société extrêmement unie. Vous savez, il y a eu l'appel des réservistes qui n'a pas eu lieu depuis des dizaines d'années en Israël. Il y a aujourd'hui 140% de réponses positives. Vous savez que lorsqu'on appelle les réservistes, on prend toujours en compte le fait que on appelle plus de réservistes que prévu parce que on ne sait pas où se trouvent. Et c'est le propre des réservistes. On ne sait pas où ils se trouvent. Peut-être qu'ils se trouvent à l'étranger. Peut-être que certains sont hospitalisés. Peut-être que certains, leur situation personnelle a changé. Ils ne peuvent pas remplir leurs obligations militaires. Donc on appelle en général autour de 20 à 30% de plus de réservistes pour pouvoir affronter une situation où un tiers d'entre eux ne pourrait pas répondre à l'appel. Eh bien, nous avons eu non seulement 100% des réservistes qui ont été appelés, qui se sont présentés, mais nous avons en plus cette réserve supplémentaire à la réserve qui, elle aussi, s'est présentée, y compris des dizaines et des dizaines et des dizaines, des centaines de volontaires qui n'ont pas été appelés et qui ont rejoint leur unité en suppliant d'être enrôlés, d'être également partie de cette mission que nous avons sacrée pour défendre notre peuple et notre pays. Donc, L'espoir, oui, nous l'avons, parce que nous sommes unis et parce que nous savons que nous affrontons un ennemi extrêmement difficile, extrêmement odieux et infâme, mais nous sommes aujourd'hui unis et c'est cela qui nous donne, qui me donne la raison de pouvoir vous dire pourquoi nous ne perdons pas notre espoir.
Je ne vais pas rentrer dans les stratégies militaires, etc. Je crois qu'on suit ça au fil de l'info et que ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse plus à la société israélienne et à la vie politique n'est pas à l'ordre du jour non plus. Je pense que les comptes seront réglés après le conflit. Mais aujourd'hui, que peut faire une communauté juive de diaspora, notamment celle de Strasbourg, pour aider Israël ?
Nous avons d'abord besoin du soutien de tous, des communautés juives, mais également de toutes les consciences libres. Et quand je dis les consciences libres, celles qui ne sont pas intoxiquées, soit par la haine antisémite, parce que nous le voyons très clairement aujourd'hui, il y a un véritable déferlement, une libération de la parole antisémite autour de cette attaque du Hamas du 7 octobre dernier. Donc toutes les consciences libres doivent pouvoir aujourd'hui s'exprimer. Je crois que le rôle des communautés juives est de servir également pour essayer de transmettre ce message que le président Macron a bien compris lorsqu'il a, il s'est exprimé hier à Tel Aviv et à Ramallah. Il ne s'agit pas de la cause palestinienne. Le Hamas n'a rien à voir avec la cause palestinienne. Le Hamas est une organisation terroriste, exactement comme Daesh est une organisation terroriste, comme l'était Al-Qaïda. Et il s'agit aujourd'hui de lutter et d'éliminer cette menace terroriste qui menace le monde entier, le monde libre. Vous savez, le président Macron a dit hier, c'est une page noire de l'histoire d'Israël, mais c'est une page noire de notre propre histoire. Cela montre bien combien là, ce qui s'est passé le 7 octobre, contre les populations civiles du sud d'Israël, ne touche pas seulement Israël. Nous sommes à la pointe du combat du monde libre. C'est un combat de civilisation contre l'obscurantisme de l'islamisme radical.
Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une lutte pour des territoires contre Israël, mais c'est vraiment une guerre contre l'humanité et ses fondements dans la manière dont elle se passe.
Contre l'humanité, contre tout ce que l'humanité peut représenter de valeur, les abominations qui ont eu lieu montrent bien ici non pas de tuer pour se défendre, de tuer pour promouvoir une cause, mais il s'agissait ici de faire preuve de la plus grande inhumanité possible pour justement se battre pour cette cause de l'islamisme radical.
Alors comment arriver à faire un petit peu, à dissocier justement cet islamisme radical qui veut imposer sa civilisation au monde entier apparemment, du problème du conflit israélo-palestinien, la négociation des territoires, etc. On a vu que l'ONU est restée sur ses postures d'avant la guerre, par la déclaration du secrétaire général. Comment arriver à faire dissocier tout cela ?
Mais je crois qu'il faut agir avec beaucoup de détermination, beaucoup de clairvoyance. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ce qui aujourd'hui se cache derrière ces postures que vous évoquiez tout à l'heure. Je rappelle ici que les propos du président Macron hier à Ramallah ont été extrêmement clairs lorsqu'il a dit clairement aux côtés du président Abbas que le Hamas n'a rien à voir avec la cause palestinienne, qu'il faut condamner le terrorisme. Et je crois que lorsque tous ceux qui aujourd'hui se réclament de valeurs universelles, y compris les défenseurs de la cause palestinienne, ils doivent comprendre que s'ils veulent soutenir le peuple palestinien, ils doivent aujourd'hui se battre contre le Hamas, ils doivent condamner clairement le Hamas et participer à cet effort universel de lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas d'inhibition à avoir, il n'y a pas de doute sur la réalité du combat que nous devons mener. Et je crois qu'ici, lorsque vous m'avez posé la question de savoir ce que vous pouvez faire à l'étranger, eh bien, il s'agit de participer à cet effort qui n'est pas facile, qui n'est pas évident parce qu'il y a la confusion autour des messages de soutien à la cause palestinienne. Mais le président français l'a dit avec énormément de clarté, comme l'ensemble des dirigeants européens qui se sont rendus en Israël. Il s'agit ici du combat de la lumière contre les ténèbres. Il s'agit ici du combat des valeurs universelles, des valeurs de l'humanité contre le pire des terrorismes et des fascismes. Hein. Vous savez, le terrorisme islamiste est une forme de fascisme aujourd'hui contre lequel il faut lutter.
Monsieur Saada, selon vous...
Alain Lévy vous pose une question.
Oui, bonjour. Monsieur, selon vous, est-ce que vous pensez que cette guerre contre les frères musulmans à travers le Hamas armé n'arrange pas également les pays tels que l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et laisse faire aujourd'hui Israël le sale boulot pour pouvoir ensuite, eux... s'exprimer beaucoup plus facilement au sein de leur pays, sachant qu'aujourd'hui, certainement, ils sont ligotés par leur population, mais que, quand même, incidemment, ils ont un intérêt majeur à ce qu'Israël gagne cette bataille.
Le Hamas est l'ennemi de toutes les démocraties, mais également, il est l'ennemi des pays arabes modérés, il est l'ennemi de tous ceux qui n'adhèrent pas à leur idéologie radicale et fondamentaliste. Donc oui, évidemment, les pays arabes que vous citez sont intéressés également à voir le Hamas être éliminé et sa capacité de nuisance être totalement anéantie. Ils ne le disent pas de la manière aussi claire que nous aurions aimé l'entendre, mais je crois que depuis le 7 octobre, les choses ont fondamentalement changé et je crois que nous allons assister à de grands changements au Moyen-Orient.
Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire exprimer ces dirigeants ou tout au moins de communiquer là-dessus pour informer la population qu'effectivement tous ces pays qui avoisinent Israël sont touchés par ces frères musulmans et qu'ils sont tout à fait, je dirais pas solidaires, mais à côté d'Israël?
Vous savez, le combat que nous menons est un combat difficile, y compris sur le plan de la communication. Je rappelle que les Frères musulmans est une organisation qui est interdite en Égypte, qui est également interdite dans beaucoup de pays arabes modérés. Donc je crois que de ce point de vue-là, il n'y aura plus de confusion possible.
D'accord.
Vous avez dit, M. Saada, Dan Leclerc. Qui parle, vous avez dit qu'il faut soutenir évidemment la cause, les discours sont clairs, ils ne le sont pas pour tous, hein, le président l'a marqué, mais c'est vrai qu'on a une frange politique qui continue à entretenir le chaos, le désordre et l'incertitude. Techniquement, de manière très pragmatique, comment est-ce que nous pouvons nous récupérer de la bonne information et surtout la partager? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour pouvoir être armés à notre niveau pour pouvoir correctement contrer cette propagande? Parce que c'est une question qui revient régulièrement chez nos amis, dans nos entourages. Comment est-ce que l'on peut argumenter dans des bonnes conditions? Où est-ce que l'on peut prendre des informations et des éléments de langage? Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, à l'ère de l'information digitale, je crois qu'on peut se plaindre de surplus d'informations, mais pas de manque d'informations.
Pas de manque, donc, c'est de faire le tri finalement.
Donc la question est de faire le tri entre toutes ces informations qui déferlent. Je crois qu'il y a énormément de moyens, je ne suis pas sûr que ce soit le cadre aujourd'hui, maintenant d'en parler, mais il y a énormément de moyens pour pouvoir trouver les sources les plus fiables des informations réelles, les analyser et pouvoir les utiliser pour contrer ce déferlement de haine que j'évoquais tout à l'heure.
Daniel Saada, j'ai une question propre à la société israélienne. Comment se comporte la population arabe du pays vis-à-vis de ce conflit?
Mais je crois que là, ici, c'est une défaite du Hamas qui avait sans aucun doute escompté un soulèvement dans les villes dites mixtes avec des populations de citoyens arabes israéliens. Nous l'avions vu lors de l'opération Gardien des Remparts en mai 2021. Cette fois-ci, cela n'a pas marché, ils n'ont pas réussi. Nous sommes d'abord évidemment extrêmement soucieux de maintenir la sécurité dans ces lieux, mais au-delà de cela, je crois que l'abomination qui a eu lieu le 7 octobre a interpellé tous les citoyens israéliens, quelle que soit leur confession.
Et donc la rue est calme, je veux dire, bon, la police empêche
absolument
certainement les manifestations, mais la rue est calme, il n'y a pas de manifestations hostiles et on continue
Dieu
à vivre.
Dieu merci, jusqu'à ce jour, nous sommes dans une situation d'apaisement.
Donc Israël n'est pas un pays d'apartheid.
Non, Israël n'est pas un pays d'apartheid, il n'y a pas de doute là-dessus.
Alain Lévy, j'aimerais vous poser une question qui est peut-être un peu difficile à traiter pour vous. C'est que Israël possède l'arme nucléaire, si j'ai bien compris. Je suis étonné qu'on ne fasse jamais référence à cette arme de dissuasion, comme l'a fait il n'y a pas longtemps encore M. Poutine, lorsqu'il se sentait acculé.
Le Pakistan aussi. Le Pakistan,
la France là, etc.
Menacé.
Mais pourquoi ne parle-t-on jamais, on voit des navires américains venir pour soutenir Israël, on voit beaucoup de choses qui se passent autour d'Israël pour consolider la force d'Israël. Pourquoi le gouvernement ou les médias ne parlent-ils jamais de cette fameuse bombe nucléaire que Israël possède?
Vous attendez vraiment à ce que je réponde à votre question?
Écoutez,
voilà l'ambassadeur qui parle.
Je sais que c'était une question délicate, mais je me la pose. Alors je me dis, je fais une psychanalyse auprès de vous. Est-ce que vous êtes en capacité de nous répondre?
Nous ne sommes pas le président Poutine. Nous ne sommes pas la Russie. Et nous conservons, vous savez, l'ancien Premier ministre, président de l'État, Shimon Peres, de mémoire bénie, avait l'habitude de dire régulièrement lorsqu'on lui posait cette question. Israël est un pays qui se dote de tous les moyens dont il a la possibilité, parce qu'il est le seul pays au monde aujourd'hui membre des Nations Unies régulièrement menacé par un autre membre des Nations Unies, l'Iran en particulier, mais pas seulement, de destruction. Il n'y a pas d'autre précédent dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire moderne de l'humanité. Il n'existe pas. Les Nations Unies ont été créées après la Seconde Guerre mondiale pour justement éviter cela. Or, y compris de la tribune des Nations Unies, nous sommes aujourd'hui régulièrement menacés de destruction. Alors voilà, je crois que j'ai répondu en partie à votre question. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous munir de tous les moyens nécessaires pour éviter notre destruction.
Justement, à ce sujet, puisque vous dites qu'on a les moyens, pourquoi on n'en parle pas? On ne l'évoque pas.
Parce que j'imagine aisément que ce dont il s'agit n'est pas dans la parole, mais dans l'action.
D'accord. Merci.
Daniel Saada, on va un petit peu pour terminer cet entretien. Daniel Saada, ancien ambassadeur à Paris pour Israël. On va parler un petit peu de politique française, puisque vous êtes resté connecté, bien que vous soyez retourné en Israël, vous êtes toujours resté connecté à la vie publique française. Je trouve qu'on parle énormément de M. Mélenchon, de ses propos outranciers que Meir Habib a qualifié même d'antisémites. On ne va pas polémiquer là-dessus, pour nous la chose est claire. Mais est-ce que la parole de Mélenchon n'étoufferait pas celle de l'arc républicain qui soutient en grande majorité Israël?
Vous savez, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que pendant de très longues années, j'ai eu des difficultés à comprendre comment le même Parlement qui en 1936 a porté au pouvoir le Front Populaire et Léon Blum, les mêmes parlementaires ont 4 ans plus tard accordé les pleins pouvoirs à Pétain, à l'exception de 80 parlementaires. Je me suis toujours posé la question comment un Parlement de gauche pouvait se dévoyer à ce point. Je n'avais pas compris comment c'était possible. Aujourd'hui, je le comprends mieux. Le deuxième élément, j'ai relu récemment un ouvrage d'un historien français qui s'appelle Fred Kupferman, si je ne me trompe pas, Kupferman, sur la biographie de Pierre Laval. Oui. Je vous engage à tous à la relire et vous y verrez des similitudes avec certains personnages de la politique française aujourd'hui que vous avez évoqués.
Oui. Ceci n'est donc en fait pas très responsable vis-à-vis de la menace qui pèse aussi sur la République française, je crois, le président Macron.
Non, je crois que d'abord, la dévoyance et la déviance d'une certaine gauche est malheureusement connue et se répète aujourd'hui. Et je crois aussi que le défaitisme qui avait conduit à la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale continue aujourd'hui, renaît de ses cendres aujourd'hui et s'exprime à nouveau face à la menace islamiste, comme hier face à la menace nazie. On faisait preuve de compréhension, d'indulgence et de défaitisme.
Alors qu'en Israël aujourd'hui, c'est la vraie union nationale, politiquement, je pense que déjà dans les salons bistrots, on commence
au-delà,
à critiquer.
Au-delà du politique, la société israélienne est mobilisée. Venez ici voir ce qui se passe au quotidien les volontaires, l'engagement, la mobilisation de toutes les forces vives de la société israélienne, c'est quelque chose d'exceptionnel.
À ce sujet,
je dois vous laisser car je dois rentrer à une autre interview.
Daniel Saada, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, un grand merci. Nous essaierons de vous contacter dans quelques jours, quelques semaines pour faire un point. Merci Daniel et
merci à vous.
Shalom.
Shalom, merci Monsieur Saada.
Shalom, shalom.
Oui, nous sommes ravis de cet échange avec Monsieur Saada qui nous a confortés dans son analyse sur la société française et également sur la société israélienne à présent. On est enrichi de ses connaissances et de sa vision.
Alain, justement, on a peut-être encore quelques minutes pour un échange. Je crois que tu es un des plus attentifs à ce qui se passe en ce moment en Israël avec un esprit d'analyse. Donc, quelle est ta vision de l'évolution des choses ?
Concernant la société israélienne, je suis ravi de voir qu'elle est unie, qu'elle se regroupe, qu'elle est solidaire, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Donc on ne peut que malheureusement, dans ce contexte actuel, se féliciter de cette situation. J'en prends pour exemple également l'engagement des orthodoxes dans Tsahal. Énormément d'orthodoxes, plus de 2500 à 3000 se sont engagés aujourd'hui. Ils étaient tellement décriés, une loi devait passer. Donc si les choses arrivent à se réguler de cette façon avec les orthodoxes, mais aussi avec la société israélienne en général, c'est quelque chose d'extraordinaire. On regrette aussi le fait que de nombreux francophones rentrent vers la France pour des raisons...
D'autres y vont. Il y a beaucoup d'engagés dans le service civil.
C'est compliqué quand même de juger cela et de donner... on peut avoir évidemment un avis, un ressenti, mais c'est vrai que moi je m'entretiens régulièrement avec des gens d'Israël ou même dans les familles, j'ai envie de dire, partagés. Certains veulent rentrer, d'autres veulent rester, donc difficile en tout cas de le juger.
Parfois c'est les conditions de vie au quotidien qui font que, pour des raisons médicales, pour des raisons familiales, pour les enfants, pour beaucoup de choses. Donc c'est pas une volonté délibérée de quitter Israël pour revenir en France dans un foyer d'accueil entre guillemets serein, ce qui n'est pas véritablement le cas. Mais voilà, donc on ne peut qu'espérer des jours meilleurs. Cette conclusion, je ne sais, elle est un peu bateau, mais je dois...
crois qu'Alain Lévy, qui a édité ce guide de l'Alia, un best-seller en France, va avoir du travail parce que je pense que le contraire, c'est que des Juifs vont vouloir faire l'Alia après ce qui s'est passé. Parce que là, on est au pied du mur de notre histoire.
Vous m'aviez posé cette question il y a 3 semaines, je crois, Thierry, avant que les événements arrivent. Je vous avais dit l'Alia, en ce moment, c'est quelque chose de très, très, très ralenti. Maintenant, je crois pouvoir dire et aller sur la ligne que vous évoquez. On est sur la ligne de Crète, celle qui va venir constater qu'effectivement, beaucoup de Juifs francophones vont vouloir migrer en Israël. Et c'est quelque chose que l'on ne peut qu'encourager.
Je crois effectivement qu'on a tous envie, enfin tous... Nos amis, on a tous envie de faire quelque chose pour Israël et ça va justement du carnet de chèques jusqu'au billet d'avion et on a tous envie de s'impliquer. Ce matin, j'avais un ami à 7h du matin qui m'appelait, qui veut faire. Et on ne sait pas toujours comment. Donc il y a des structures, il y a le CRIF, il y a France Israël,
il y a beaucoup d'organisations comme Qualita, par exemple, que l'on peut recommander en Israël, avec qui on a des réponses extraordinaires et un accompagnement fantastique par des francophones pour faire toutes les démarches pour s'engager dans une alia qui réussisse. Donc effectivement, l'agence juive est le tremplin obligatoire sur lequel il faut passer, mais ensuite ces associations sont très 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 engagées, très performantes pour un accompagnement sur une alia avec des facultés d'adaptation aisées.
Je me rappelle d'un de mes amis et confrères qui a fait son alia depuis, qui a 30 ans, on me dit, je crois qu'on est passé à côté de notre histoire. C'est un petit peu ça ce message, c'est que ici dans cette pièce, quelqu'un qui a un fils engagé et qui n'est pas passé à côté de son histoire, donne du sens à sa vie. Je suis un peu père de famille et philosophe quand je dis ça, mais c'est un peu vrai, c'est ce qu'on ressent tous. On est dans notre confort, il faut sortir de cette zone de confort et aujourd'hui c'est vraiment le cas pour nos compatriotes, particulièrement concitoyens qui se sont engagés dans la défense d'Israël de manière très active et faut leur rendre hommage.
Mais d'autres se diront également, si on n'est pas suffisamment nombreux en France en tant que juifs, eh ben, effectivement, ça laisse le balancier peser du côté de la population musulmane. Et voilà, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Chacun doit le faire en fonction de son ressenti. Et de cet engagement, eh ben, voilà, on espère des vies bonnes et meilleures pour tout le monde.
Oui, c'est une question qu'on se pose, et que je me pose, et que nous posons en tant que responsables communautaires. Quel est l'avenir des Juifs à Strasbourg?
C'est
une question. Il n'y a pas de réponse dans ma question. C'est une interrogation. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, nous aussi, comme nos parents, grands-parents, devrions quitter pour notre sécurité cette ville? On sait où aller, ça c'est bien.
On a un petit atterrissage, ça c'est sûr.
De ceux qui veulent se battre et rester pour, au contraire, prospérer. Mais c'est la question que tout le monde se pose en ce moment, et la réponse, on l'aura dans la victoire d'Israël, et on verra que notre rôle en diaspora est extrêmement important pour Israël.
Voilà, je crois que vous avez dit le mot juste.
Avec gravité et émotion, et justesse comme toujours. Merci beaucoup Thierry.
Je crois qu'il est temps de nous quitter. On nous fait signe qu'on grappille déjà sur le temps de l'émission d'après. Non, ça va encore. Donc, merci Dan Leclerc, Alain Lévy. Nous recevions aujourd'hui, je le rappelle, l'ambassadeur d'Israël en France en 2021, Daniel Saada, qui nous parlait d'Israël et qui nous a fait un tableau de la situation en France, en Israël et dans le monde. Chers amis de Shtam Israël, Dan, merci. Alain, à la semaine prochaine.
Merci à vous. Prochaine. Merci.
Au revoir. À la semaine prochaine.